Radio Prague, les informations.
Bonjour, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici les titres. Le contrat de coalition est prêt. Karel Schwarzenberg et Radek John seront vice-premiers ministres. La presse tchèque annonce également le retour de Vladimír Špidla en politique nationale. Et puis du sport avec du tennis et la Coupe Davis, la République tchèque mène 2-0 face au Chili en quart de finale. Le Premier ministre tchèque Petr Nečas a indiqué ce vendredi que le contrat de coalition entre les trois partis de droite, le Parti civique démocrate ODS, Top 09 et Affaires publiques était enfin prêt. Il doit encore être approuvé par les organes des partis de cette coalition avant d'être signé, comme l'espère Petr Nečas, ce lundi à 18h. Le comité exécutif de Top 09 se réunira lundi à 10h, tandis qu'Affaires publiques tente d'organiser un référendum par Internet, mais se heurte à des problèmes techniques. Le leader de Top 09, Miroslav Kalousek, a estimé que ce contrat de coalition était un projet viable. Karel Schwarzenberg et Radek John seront donc les vice-premiers ministres. Et puis l'ancien Premier ministre tchèque et ancien commissaire européen Vladimír Špidla serait sur le point de faire son retour en politique sur le plan national. D'après les informations du serveur aktualnie.cz, il sera chargé des questions européennes dans le prochain cabinet fantôme que veut présenter l'opposition social-démocrate juste après la nomination du gouvernement. Un gouvernement tchèque qui, pour la première fois depuis longtemps, ne comprendra pas de ministère des Affaires européennes. De la culture avec du cinéma et le Festival international du film de Carlo Vivari qui se termine ce samedi soir avec encore de nombreuses projections toute la journée de ce samedi. Invité de marque de cette dernière journée du festival, la légende du cinéma russe Nikita Mikhalkov, réalisateur entre autres de Soleil trompeur ou du Barbier de Sibérie. Il est venu présenter son film Soleil trompeur 2. Et puis, à noter que Juraj Hertz, le réalisateur, a été récompensé pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Même récompense pour Nikita Mikhalkov ce samedi soir. Du sport avec du tennis, et je vous le disais en titre, l'équipe de République tchèque qui affronte le Chili pour une place en demi-finale de la Coupe Davis. Pour ce déplacement à Coquimbo au Chili, les Tchèques, finalistes malheureux de la compétition l'année dernière, sont privés de leurs deux meilleurs joueurs, Radek Štěpánek et Tomáš Berdych. Mais malgré ces absences, Ivo Mináč a donné le premier point à la République tchèque en écrasant Nicolas Massu en 3-7, 6-0, 6-2, 6-3. Et puis Jan Hayek, opposé à Paul Capdeville, a emporté sur un score encore plus sévère, 6-0, 6-2, 6-1. Et les deux joueurs ont ainsi mis la République tchèque dans les meilleures dispositions pour la suite de la rencontre. La suite de la rencontre, ce sera ce samedi, mais à l'heure du Chili, avec le double. Et puis la météo pour terminer, avec un temps ensoleillé et très très chaud qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce samedi. Les températures grimpent jusqu'à 35 degrés. Et c'est la fête des Libouchés et puis aussi des Amaliers, selon le calendrier local. Je vous souhaite une très agréable écoute de la suite du programme en français de Radio Prague et vous retrouve dans 3 heures pour un nouveau bulletin d'information.
Rencontre littéraire. Václav Richter.
La galanterie française, tel est le titre d'un livre paru chez Gallimard et dont la traduction tchèque vient de sortir aux éditions Academia. C'est à cette occasion que nous avons accueilli à Prague Claude Habib, auteur de ce livre qui révèle et illustre des aspects insoupçonnés de la galanterie, la situe dans son contexte historique, social et artistique et la confronte avec les modèles de comportement de notre temps. Voici la reprise d'un entretien que Claude Habib a accordé à Radio Prague en octobre dernier. Qu'est-ce que la galanterie ? Est-ce qu'on peut donner une définition du phénomène ?
C'est un phénomène qui s'est épanoui au XVIIe siècle et qui s'est développé donc dans l'entourage de Louis XIV, du jeune roi. En 1661, quand il prend le pouvoir, il a 23 ans, il est très facilement amoureux des femmes et il impose à sa cour un hommage, un respect général pour les femmes. Donc pas seulement les femmes dont il est amoureux, mais toutes les femmes. On doit se découvrir devant les femmes, on doit mettre les femmes sur une sorte de piédestal. Et cette manière respectueuse et amoureuse à la fois de traiter les femmes devient une sorte de définition du génie national. Les Français sont ceux qui traitent bien les femmes.
En quoi donc cette galanterie diffère, par exemple, de la courtoisie ou de la chevalerie du Moyen Âge ?
Bien, je crois qu'elle diffère parce que, en même temps, c'est un peu une plaisanterie. C'est-à-dire que la chevalerie, la courtoisie, bien sûr que ces valeurs-là sont au fond de la pratique et de la conversation galante. Mais la grande différence, c'est que maintenant, les femmes sont là pour de bon. Dans les cours du Moyen Âge, sauf si vous avez un phénomène de régence, une reine douairière qui prend les commandes, normalement, les cours ne sont pas mixtes. Les cours ne sont pas mixtes jusqu'au XVIe siècle. C'est François Ier qui introduit les femmes à la cour. Alors, la différence de la galanterie, c'est que maintenant, les femmes sont là, et c'est avec elles qu'on joue à ce jeu de l'hommage. Je sais pas, envers une femme invisible qu'on voit une fois à l'église de loin et qu'on adore de loin, c'est avec des femmes de plein pied qu'on va jouer à ce petit jeu de l'hommage et de la flatterie.
Votre livre s'appelle « La galanterie française ». Pourquoi la galanterie s'est développée justement en France ?
Eh bien, je crois que c'est par propagande monarchique. Je crois vraiment que Louis XIV a fait de cette manière spéciale de traiter le mieux possible les femmes une vitrine de son pouvoir. Après tout, il est roi absolu. Il aurait pu être totalement despotique. Or, il choisit de donner une autre image, l'image à la fois d'un prince chrétien et d'un prince soumis au charme, je dirais pas au pouvoir, au charme des femmes. Un roi qui s'agenouille devant, comme ça, la beauté. Et bon, c'est une décision du jeune roi de mettre les femmes sur un piédestal, de leur donner cette importance, cette visibilité, cette importance politique. À la fin de son règne, Madame de Maintenon assiste au conseil et donne son avis.
Dans votre livre, vous évoquez surtout, mais d'abord, le XVIIe siècle. Est-ce que c'était vraiment l'apogée de la galanterie française ?
Je crois que c'est un moment de relative stabilité, c'est-à-dire qu'après, le phénomène demeure dans les mots, mais dans l'esprit, ça change beaucoup, puisque il y a donc ce libertinage, même dans les hautes sphères, ce libertinage qui touche même les dames très haut titrées. Dans l'entourage du régent, des femmes comme la future Madame de Luxembourg, Madame du Deffand, sont des maîtresses du régent. Donc là, il y a quelque chose qui change après la mort de Louis XIV, il y a vraiment un basculement dans la joie de vivre et le libertinage, ce qui fait que ça ressemble dans les formes, mais dans l'esprit, c'est déjà beaucoup plus sexualisé, beaucoup plus instable. Donc oui, s'il y a un âge d'or, c'est sans doute le XVIIe siècle.
Et comment la galanterie a évolué justement dans les XVIIIe, XIXe et même le XXe siècle ?
Bien, elle s'est certainement fossilisée, c'est-à-dire que pour le XIXe siècle, c'est une série de tours, d'hommages qui sont très fossilisés, comme le baise-main. Enfin, il y a une manière de s'adresser aux femmes qui est assez codée. Alors que ce qui me frappe au XVIIe siècle, c'est le moment de l'invention. Et dans le moment de l'invention, tout est possible. Vous savez, au XVIIe siècle, on a voulu faire entrer une femme, Mademoiselle de Scudéry, à l'Académie française. C'est elle qui a refusé. Donc, comment dire, trois siècles avant Marguerite Yourcenar, on demande à Mademoiselle de Scudéry de venir. Donc là, il y a une ouverture vraiment prodigieuse de tout l'ensemble, enfin de la France aristocratique, hein, je ne parle pas du tout de ce qui se passe dans les campagnes ou dans les bourgs, mais une ouverture au féminin absolument inédite, soudaine, qui rend les femmes très heureuses. Voilà, c'est ce moment-là dont je voulais parler.
Vous parlez de ce que la galanterie a apporté aux femmes. Qu'est-ce qu'elle a apporté aux hommes ?
Je crois qu'on gagne toujours à se civiliser. Et ce que ça a apporté aux hommes, c'est d'abord une joie de vivre avec les femmes. D'abord une mixité qui est une mixité non pas d'individus égoïstes, chacun pour soi, mais une mixité joueuse, érotique, stylée. Je crois que c'est toujours agréable d'avoir un comportement inventif et civil. Et je crois que les hommes ont gagné en joie dans cette approche des femmes. Et puis, rendre les femmes heureuses, ça donne une tonicité, ça donne un humour érotique que vous trouvez en France même tard. quand vous regardez des films de Sacha Guitry, la galanterie est là, on est 3 siècles après, mais la galanterie est toujours là, joueuse et qui fait des clins d'œil et qui s'amuse.
Vous venez d'utiliser le mot mixité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Oui, je sais qu'en tchèque, le mot n'existe que comme adjectif et n'existe pas comme nom commun, comme substantif. La mixité, c'est le fait que les hommes vivent avec les femmes. C'est le partage d'un même espace, c'est le fait qu'il n'y a plus séparation. Vous savez, au XVIIe encore, les hommes sont d'un côté à l'église, les femmes de l'autre. La séparation dans l'espace est très visible, mais ils commencent à se mélanger, ils commencent à avoir des rapports qui ne sont pas indignes, qui ne sont pas des rapports brutaux, qui ne sont pas des rapports humiliants pour la femme, mais qui sont des rapports euphorisants, des rapports qui rendent heureux.
Il y a donc la mixité sous l'Ancien Régime, et il y a la mixité d'aujourd'hui, par exemple. Quelle est la différence ?
Bien, nous promouvons la mixité depuis longtemps, depuis les années 60. On l'impose dans les lycées et dans les écoles primaires. Nous voulons maintenant que les hommes et les femmes se retrouvent de plein pied pour qu'ils aient l'habitude de se considérer comme des individus égaux. Alors que au XVIIe siècle, les femmes sont d'abord dans une subordination, ça, il n'y a pas de doute. Elles se perçoivent comme inférieures aux hommes. Et elles sont dans la mixité, mais comme une mixité érotique, c'est-à-dire qu'elles sont à la cour, mais elles sont à la cour comme objet de désir. Ça, c'est une grande différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à aller vers une mixité désérotisée, une mixité où on ne doit surtout pas avoir de comportement indiquant que l'autre peut vous plaire ou peut vous charmer. On n'a pas le droit de le toucher. Si on fait des déclarations, on peut être accusé de harcèlement sexuel. Vous voyez, maintenant, il y a une retenue, mais une retenue où on se fait taper sur les doigts. Alors que dans la galanterie, il y a au contraire une invitation à parler d'amour des deux côtés, mais d'un amour retenu en principe.
Aujourd'hui, ce genre de comportement, la galanterie est souvent considérée comme dépassée et l'homme galant devient presque ridicule. Est-ce que la galanterie est encore possible dans une société qui cherche à parvenir à l'égalité des sexes ?
Vous savez, les vieux aspects de la galanterie, tout le code galant qu'on a hérité du 19e siècle, oui, il est passé de mode. Encore que quand un très joli jeune homme s'en sert, ça fait de l'effet. Mais je crois que d'autres traits beaucoup plus importants, comme la retenue masculine, le fait de ne pas abuser d'une femme, le fait de la laisser passer devant soi, de l'aider à vivre, de l'aider à prendre sa place. Vous savez, tout ce qui, dans la galanterie, invite les femmes à se sentir bien, à avoir de l'estime d'elle-même, à avoir de l'assurance, ça c'est loin d'être passé. Je crois que c'est toujours très apprécié.
C'était Claude Habib, auteur du livre « La galanterie française ». Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Aleš Pözl, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue qui vous sera maintenant proposé est une rediffusion de l'émission diffusée le 26 septembre 2009.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Vous avez sans doute déjà entendu parler de la République tchèque comme d'un grand pays de bière. On dit par ici que la consommation annuelle de bière par habitant est la plus importante en Europe, voire au monde. Mais êtes-vous préparé à commander une bière en connaissance de cause ? Sinon, quelques précisions de l'émission du jour pourraient donc vous être utiles.
Víme pivo, pivíčko, už ho máme malíčko, šenkýř nechce nalejvat, budem chaso domů spát.
Jedno pivo, prosím.
Une bière, s'il vous plaît. La formule est simple, précisons cependant ce qui vous attend si vous la prononcez. Dans la plupart des bars, restaurants, auberges, et nous vous renvoyons pour cela à l'émission du 12 avril 2008 consacrée au
Hospoda,
on ne vous demande pas de préciser et on vous apporte la bière la plus courante servie en pression, une
Desitka,
soit littéralement une 10. Mais comme nous le précise Kuba, un grand buveur de bière,
Pivache,
ça dépend. Si tu demandes une bière sans préciser, on te servira la bière ordinaire du lieu,
Obyč.
La plupart du temps, ce sera donc une 10.
Desítka.
Mais ça peut aussi être par exemple une 11 brune.
Černá jedenáctka.
Ou une 12.
Dvanáctka.
S'ils n'ont que de la 12. La 12 la plus distribuée et la plus consommée dans le pays étant produite par la brasserie de
Plzeň.
Pilsen, certains demandent automatiquement
jednu Plzeň, prosím.
Soit une Pilsen, s'il vous plaît, pour obtenir une 12. Autre précision importante pour les néophytes de la bière tchèque.
Jedno pivo, prosím.
Ce sera forcément une grande bière de 50 centilitres. Si vous voulez une petite bière de 30 centilitres, elle, et non pas de 25, comme en Belgique ou en France pour le demi-classique de bistrot, vous devez le préciser à la commande.
Malé pivo, prosím.
Soit une petite bière, s'il vous plaît. Ou
Malá Plzeň.
Si c'est une douce de Pilsen que vous désirez, à condition toutefois, bien entendu, qu'ils aient de la
Plzeň
dans la
hospoda
où vous vous trouvez.
Lidičky, já mám rád pivo.
Já taky.
Za pivo ženskou bych dal.
Aspoň za dvě.
Ona mě furt jenom říká.
Ale má pravdu.
No ale co z toho kořaly mám? Stará.
Il est temps maintenant de préciser le sens de ces appellations. Peut-être êtes-vous en effet en train de regarder affolé, à moins que vous ne soyez belge, ces chiffres inhabituels pour de la bière. 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés, et certaines marques produisent même de la 16 degrés, de la 19 ou de la 21 degrés pour les gourmets. En fait, il ne s'agit pas du degré d'alcool de la bière, vous pouvez donc attaquer votre demi-litre,
pour litre,
comme on dit par ici, sans crainte. En fait, pour faire simple et simplifier, comme vous le savez, la bière est produite par le mélange de trois ingrédients principaux.
Voda, chmel, slad.
Soit l'eau, le houblon et le malt. Grosso modo, on crée donc une substance grâce à diverses techniques avec notre malt et notre houblon. Et cette substance, on la mélange avec l'eau pour la faire fermenter. Dans la plupart des bières tchèques, on mélange 10% de cette substance avec 90% d'eau. Ce qui donne donc notre
Desítka.
Et inutile de vous préciser que notre fameuse
Plzeň
contient plutôt 12% de cette substance et 88% d'eau, et ainsi de suite pour les autres bières. Pour faire chic, on vous dévoile le nom de ce degré qu'on utilise pour distinguer les bières tchèques, c'est le degré Balling. Il correspond au pourcentage d'extrait sec du moût avant fermentation. Quant au degré d'alcool, qui vous intéresse également certainement, il peut se calculer à la louche en comptant un peu plus du tiers du degré Balling. Notre 10 degrés
Desítka
contient donc entre 3,5 et 4,3% d'alcool. La 12 degrés
Dvanáctka
entre 4,5 et 5%. Vous pouvez donc boire sans crainte pour peut-être atteindre un jour une consommation de tchèque, à savoir environ 160 litres de bière par an. Pour récapituler, en prononçant la formule consacrée,
jedno pivo, prosím.
Vous pouvez vous attendre à voir arriver sur la table dans les 5 minutes qui suivent un demi-litre de bière blonde légère à environ 4 degrés d'alcool, qui a fermenté avec 10% d'extrait de moût, le mélange de malt et de houblon. Si vous voulez autre chose, il vous faudra user d'autres vocabulaires comme
malé,
petite,
jedenáctka,
11 degrés,
dvanáctka,
12 degrés,
černé,
brune. Et c'est sur cette récapitulation dont on espère qu'elle vous sera utile que nous terminons ce tchèque du bout de la langue, consacré donc à la commande de la bière dans les
hospoda
tchèques. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouveau courrier des auditeurs. Nous avons reçu cette semaine peu de courriers, mais de nombreux rapports d'écoute qui sont de plus bien détaillés. Le rapport d'écoute le plus lointain est celui de Monsieur Osamu Aikawa qui nous écrit du Japon. C'est un grand plaisir de vous envoyer un rapport de réception comme suit et j'espère que le rapport est très utile pour votre station, écrit Osamu Aikawa. Naturellement, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous recevons tous les rapports d'écoute de Radio Prague. Nous sommes toujours très satisfaits de constater que ces rapports nous parviennent de différents continents et de pays comme le vôtre, le Japon. Osamu Aikawa nous indique aussi que la réception était acceptable et raconte qu'au Japon, cette semaine, se tiennent deux festivals importants, le Morning Glory Festival à Shitaya, près d'Asakusa, et du 9 au 10 juillet, le Franchetti Festival. Il est dit que ces festivals nous apportent la saison estivale, ajoute Monsieur Aikawa. En République tchèque, les festivals vont aussi bon train en ce moment et cependant les mois de juillet et d'août. Toutes sortes de musiques ou d'autres manifestations artistiques sont à l'honneur à Prague et dans les régions. Le festival Rock for People à Hradec Králové a battu des records d'affluence cette année avec plus de 25 000 visiteurs. En ce mois de juillet continue le festival de musique classique Prague Proms et nous attendons avec impatience les fêtes d'été de musique ancienne qui se tiendront du 22 juillet au 8 août. De musique populaire, l'Open Air Festival O2 s'ouvre le 12 juillet prochain en attendant le Sazava Fest au début du mois d'août. Merci à Rassem Ben Brahim de Tunisie, Christian Gibaudot de Tende dans les Alpes-Maritimes et André Biot de Roméré pour leur rapport d'écoute. André Biot qui nous fait remarquer par ailleurs une très mauvaise réception. Nous en sommes tout à fait navrés. Nous avons reçu deux cartes postales cette semaine. La première nous a été envoyée par Gilles Gauthier du Radio Club du Perche. Une carte avec quelques-uns des plus importants lieux touristiques de France, à savoir la Tour Eiffel, le Château de Versailles et la Cathédrale de Chartres. Paul Jamet nous a quant à lui joint une carte sur l'agriculture française, un secteur important de notre économie, écrit-il, et il est revenu sur le concours de Radio Prague. Je ne lis jamais de romans, aussi je n'ai pas participé à votre concours. Pour tout, la lecture et l'écoute de la radio sont mes deux passions. Je suis abonné à une douzaine de magazines, sciences, histoire, voyage et nature. Je ne lis pas de romans, mais j'écoute les rencontres littéraires tous les week-ends. Paradoxal, s'interroge donc Paul Jamet. Au-delà de la littérature, les rencontres littéraires touchent à l'histoire et à la culture en général. Nous sommes donc très heureux de vous compter parmi les auditeurs de cette rubrique. Tristan Canoin de Loos nous a envoyé une quarantaine de rapports d'écoute et toujours à propos de littérature, nous rappelle les 5 cartes QSL qu'il a reçues à l'effigie de grands écrivains tchèques, soit Václav Havel, Milan Kundera, Bohemil Hrabal, Karel Čapek et Jaroslav Hašek. On pourrait presque parler du panthéon littéraire tchèque. Tristan Canoin nous pose également la question suivante. Concernant le métro de Prague, est-il exact que la ligne A, allant de dépôt Hostivarj à Davidska, sera prolongée vers le sud-ouest? Si oui, combien y aura-t-il de stations et quand la ligne sera-t-elle fonctionnelle? Effectivement, Monsieur Canoin, la ligne A du métro pragois devrait être prolongée à l'ouest avec pour objectif d'atteindre l'aéroport de la capitale. Ainsi, des travaux de grande ampleur ont d'ores et déjà été entrepris et d'après les plans de la société gérant le métro de Prague, 4 nouvelles stations devraient apparaître dès 2014. Il s'agit des stations Červený Vrch, Veleslavine, Petřín qui seraient situées derrière la colline du même nom et enfin Motol. Sachez également que les projets prévoit de prolonger également la ligne B du métro qui part en direction du sud-ouest. Une nouvelle station Rzepi apparaîtrait en 2015 et en 2017, les lignes A et B se rejoindraient à la station Bilahora, la montagne blanche, lieu de la célèbre bataille de 1620, et le métro filerait ensuite en direction donc de l'aéroport. Les projets font également état de la création d'une ligne D du métro qui partirait de Náměstí Republiky, la place de la République, dans le centre de Prague, pour descendre dans le sud de Prague, dans les quartiers de Krč et de Libouche. L'ensemble de ces changements devrait être effectif en 2025. Nous verrons donc dans 15 ans dans quelle mesure tous ces travaux auront changé le visage de la capitale tchèque.
Láska je jako peníze, jeden jí má moc a druhej nemá dost. Láska je jako peníze, jeden jí má moc a druhej ne dost.
Je remercie encore Abdelhamid Djebari de Tlemcen en Algérie, René Durand d'Orvault en France, Farid Boumechal et Moussef Ghari de Safi au Maroc pour leur rapport d'écoute. Nous vous enverrons naturellement des cartes QSL. Et on termine avec Fabien Battesti qui demande si en ces périodes de forte chaleur, avec des journées à plus de 30 degrés à Lille et la multiplication des installations de plages dans les grandes villes, s'il existe donc le même genre d'opération en République. Je vous invite à consulter l'article de Radio Prague sur les Žluté Lázně, les bains jaunes de Prague qui sont effectivement une sorte de plage pragoise le long des berges de la Vltava et qui viennent de fêter leur centenaire. Vous pourrez retrouver cet article sur le site internet www.radio.cz. Et c'est sur cette évocation des plages et des vacances que nous terminons ce courrier des auditeurs. Profitez bien de cette belle saison estivale et à bientôt, Zatim. Ahoj.
Taková láska je potom pro zlost a ne pro radost. Ženská je jako diplomat, je samej klam a lež. Povídám, ženská, 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 je jenom samej klam a lež.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20.30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.